Je vous invite à lire Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit.
Merci Chloé, que Dieu bénisse l'effet de sa parole dans notre cœur, dans notre esprit.
J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire tout un chapitre du livre de Josué. Josué, chapitre 20, versets 1 à 9. Je demande aux adultes qui puissent avoir le regard sur les plus jeunes pour qu'eux aussi puissent avoir la possibilité d'ouvrir leur Bible et suivre. Josué, chapitre 20, versets 1 à 9. Je vais lire dans la version Parole de vie. Le Seigneur demande à Josué de dire aux Israélites, « Vous allez choisir des villes de refuge. Moi, le Seigneur, je vous en ai déjà parlé par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui tue une personne sans le vouloir pourra se réfugier là. De cette façon, il échappera à l'homme chargé de venger de mort. Quand celui qui a tué sans le vouloir arrivera à la ville de refuge, il s'arrêtera à l'entrée, là où les affaires du peuple sont jugées. Il expliquera aux anciens de la ville ce que s'est passé. Les anciens le laisseront entrer dans la ville et lui montreront un endroit où il pourra habiter. Supposons ceci. L'homme chargé de venger le mort poursuit celui qui a tué jusque dans cette ville. Les habitants ne doivent pas le livrer. En effet, il n'a jamais détesté la personne qui est morte. Il a tué sans le vouloir. Il restera donc dans cette ville jusqu'à ce que la communauté le juge. Et il restera jusqu'à la mort du grand prêtre qui est en service à ce moment-là. Ensuite, il pourra rentrer chez lui dans la ville d'où il a fui. Verset 7. Voici les villes que les Israélites mettront à part. Kedesh, en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali. Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, Kiriat Arba, appelé aussi Hébron, dans la région montagneuse de Juda, de l'autre côté du fleuve Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisissent d'abord Bécer. C'est une ville située dans le désert, sur le plateau qui appartient à la tribu de Ruben. Ils choisissent aussi Ramoth, en Galade, qui appartient à la tribu de Gad, et dans le Bashan, Golan, qui appartient à la tribu de Manassé. Les Israélites choisissent ces villes pour servir de refuge à tous les membres du peuple et aux étrangers installés chez eux. De cette façon, si quelqu'un tue une personne sans le vouloir, il peut échapper à l'homme chargé de venger le mort. Ainsi, lui-même ne risque pas d'être tué avant que la communauté le juge. Une des classes que je n'oublierai jamais, de toutes celles que j'ai eues à Collonges, non, je ne parle pas des classes que j'ai eues avec Bernard, même si je l'utilise toujours dans mes fonctions, c'était celle de l'évaluation de nos performances dans le cours d'homilétique. Après quelques leçons théoriques, chaque étudiant devait prêcher d'abord devant la classe, et je peux vous dire que c'était encore plus difficile que de prêcher devant la classe, et je peux vous dire que c'était encore plus difficile que de prêcher devant vous, parce qu'il n'y avait rien qui échappait. Plus tard, dans une des églises aux alentours, L'expérience que je vais vous raconter est celle d'un de mes collègues. Après ses prédications, chaque étudiant devait faire devant toute la classe sa propre auto-évaluation. Mon collègue, à son tour, expliqua que durant toute sa prédication, il a eu vraiment un problème parce que un homme qui n'a rien entendu de ce qu'il a dit parce qu'il a dormi tout le temps. Et lui, il disait, vous savez, j'ai essayé toute chose. J'ai parlé plus fort. Rien à faire. J'ai même osé demander à quelqu'un qui était à côté de lui donner des petits et même des forts coups de coude. Mais il restait toujours à dormir tranquillement. Rien à faire. Et à la fin, il ose poser une question au professeur. Est-ce que je suis aussi ennuyant que ça? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Inutile de dire que tout le monde a commencé à rire et à dire peut-être, peut-être. Et avec un sourire sur les lèvres, le professeur en question a répondu d'une façon très surprenante. Avez-vous pensé que peut-être, juste peut-être, les bancs de l'église sont le seul endroit où ce frère trouve la paix, la tranquillité, par rapport à tout bouleversement, à toutes ces crises de la vie quotidienne, et c'est pour ça qu'il dormait? Allez lui parler pour mieux le comprendre. Même si cette idée m'enthousiasme, j'espère qu'aujourd'hui, vous trouverez la paix, la tranquillité pour vous sentir, comme Bertrand le disait tout à l'heure, dans la maison du Père, mais pas aussi à l'aise pour vous endormir toute la matinée. Une autre histoire, je ne sais pas où je l'ai entendue ou si je l'ai lue. Une de nos églises ayant organisé des conférences bibliques tenues par un prédicateur de renom, cela suffit pour remplir toute l'église. Il ne restait pas une seule place. C'était extraordinaire en réalité. Tout le monde commentait comment il se sentait béni par la présence de toutes ces gens qui remplissaient la salle. Malgré cela, à un certain moment, ils ont vécu un petit instant de gêne. Un des soirs, un jeune homme arrive un peu en retard et rentre à l'église en habit de travail. Il cherche une place, mais il n'en avait pas. Le diacre a bien développé son travail. Il essayait de trouver une, mais c'était impossible. Et le jeune homme était là, juste devant l'allée de la salle de l'église. Et d'un coup, décidé, le jeune homme a résolu son problème. Il a traversé toute l'allée centrale de l'église. Et juste devant la chaire, il s'est assis par terre. Tout le monde se regardait, tout le monde parlait en murmure, mais il est culotté. Et personne ne va lui dire quoi que ce soit, mais ça ne se fait pas. Alors, un vieux homme, un vieillard, avec sa canne, il se lève et il se dirige vers l'avant. Et au même temps qu'il se dirige vers l'avant, les gens disaient, voilà, il fallait que ce soit lui à avoir le courage de dire quelque chose. Mais en arrivant devant, juste à côté de ce jeune homme, il posa sa canne, il s'appuya sur l'épaule du jeune homme et s'assit à côté de lui, par terre. Et à ce moment-là, Le jeune homme le regarde et lui dit, « Ah, vous non plus, vous n'avez pas trouvé de place. » Et en souriant, le vieillard lui répondit, « Non, moi j'étais assis derrière, mais je ne voulais pas que tu sois ici devant tout seul. » Quand Israël a détourné son regard de l'étendue du désert vers Canaan, la terre promise, Moïse a établi une infrastructure pour garantir la justice appelée de ville-refuge. Cette mise en place a commencé avec trois villes et on peut le voir en Deutéronome 19. Plus tard, elles sont passées à six. Les individus qui, accidentellement, auraient tué quelqu'un d'autre pouvaient simplement échapper à la vengeance des membres de la famille en cherchant refuge dans une des villes choisies, où ils trouveraient la sécurité, la justice et une vie communautaire. Tout d'abord, ces villes devaient avoir un accès facile. Ainsi, Moïse définit trois mesures clés. La première, il imposait que les routes elles soient bien construites et entretenues, afin de que même les barrières et les difficultés physiques elles ne puissent pas empêcher celui qui a besoin d'appel, de faire appel à la justice, de se présenter. Les obstacles sur le chemin devaient être enlevés au point que même la largeur du chemin était définie. Solnik, un commentateur de la Bible, y défend que les routes étaient même bien indiquées, avec des signes dans tous les carrefours, pour bien identifier le chemin de refuge et maintenu droite et en bon état. Deuxième, l'emplacement de ces villes devait être choisi de façon stratégique, en divisant le territoire d'Israël de manière identique. Cela permettrait que personne n'ait à marcher une grande distance afin de trouver repos et accueil. Les commentaires juifs parlent que la distance ne devait passer une demi-journée à pied, de n'importe quel point du pays. Les villes-refuges étaient placées au niveau des plaines ou des vallées et dans des régions vraiment connues de tout le monde et à une distance raisonnable pour le bénéfice de toute tribu. Troisième, Moïse établit des plans pour doubler le nombre des villes et de cette façon, agrandir la présence et la possibilité de refuge dans le territoire offert par Dieu. Parce que l'existence de l'accueil, de la sécurité et justice était importante. Des mesures devaient être mises en place afin de créer une plus grande proximité. Les villes-refuges devaient être où les personnes vivaient et pas seulement où la tradition les plaçait. Moïse va le confirmer par l'attribution de six villes-refuges définies parmi les 48 villes des Lévites, trois de chaque côté du fleuve. Et parmi les instructions données, il y avait un principe fondamental. Ces villes devaient être ouvertes à tous, devaient être inclusives, capables de recevoir tout le monde, c'est-à-dire de servir les Israélites, les étrangers, ou même des résidents occasionnels, des visiteurs. En plus, c'était un grand avantage d'utiliser des villes qui appartenaient aux Lévites, aux prêtres. C'est que ces réfugiés de la justice et de la société pouvaient aussi rencontrer le moyen de recevoir la formation des dirigeants religieux. L'objectif n'était pas seulement d'épargner la vie, mais de découvrir toute une autre dimension spirituelle et devenir une source de bénédiction au fur et à mesure que le chemin de Jéhovah leur était présenté. C'est intéressant de remarquer que pour avoir accès à la justice, à la sécurité, on peut même dire au salut que ces villes-refuges étaient censées donner, ce n'était pas non plus pour n'importe qui et n'importe comment. Il y a des définitions qui étaient importantes. Josué, chapitre 20, nous l'a montré. La mort de quelqu'un de façon non intentionnelle. Et l'exemple en Deutéronome nous est donné. Le bûcheron, qu'en coupant son arbre avec la hache, saute et va atteindre quelqu'un. Le refuge ne veut pas dire non plus un pardon sans jugement. Le jugement devait être prononcé par la communauté, avec toutes les conditions garanties pour que cela puisse arriver. Frères et sœurs, le parallèle spirituel entre le rôle de ces villes dans son temps et le rôle de l'Église de nos jours reste pertinent. Les villes juives étaient des sanctuaires qui garantissaient la sécurité, la justice, le salut temporel, mais cela attirant aussi l'attention vers le ministère de Jésus. Et nos églises, aujourd'hui, doivent tenir le même but. La vie de tous les jours nous mène à faire face à des crises constantes, petites ou grandes, individuelles ou collectives. Souvent, à se sentir vivre même entre deux mondes et une vie partagée. Je rêve de communautés qui sont réellement un type du Christ dans le vécu de tous les jours et le développement de sa mission. Des églises qui ne fonctionnent pas seulement le samedi matin quelques heures, mais qui développent sa mission tous les jours, 7 jours sur 7, là où les gens sont. Savez-vous que, en particulier, entre 40 à 50% de nos ados qui se décident pour le baptême quittent nos églises avant l'âge de 25 ans? C'est vrai, ce sont des statistiques, des chiffres qui peuvent tout dire ou rien dire. Savez-vous que si nous avions gardé tous nos enfants depuis les dernières 60 années, l'Église adventiste du septième jour serait aujourd'hui 7 à 10 fois plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Ces chiffres, pour moi, ce n'est pas seulement des statistiques, mais sont des gens, sont des personnes. Combien de familles souffrent pour ces enfants? Combien vivent la solitude du banc vide de l'Église? Si nous élargissons l'analyse et incluons ce qui se passe dans les églises protestantes aux États-Unis, plus de 2/3 de ces jeunes quittent l'Église entre 18 et 22 ans. Je ne connais pas la réalité de notre communauté ici à Damarie. On n'a pas suffisamment de données pour pouvoir l'évaluer de cette façon. Mais une chose est certaine, elle ne peut sûrement pas être ignorée. Un abandon, c'est déjà un abandon de trop. Ce n'est pas un problème des JA, un problème des animateurs, du pasteur ou des anciens. C'est un problème et un vécu de toute l'Église. Nous ne pouvons pas seulement présumer que nos jeunes adultes, ou même nos adolescents, vont choisir d'avoir une vie d'Église parce que c'est le correct ou parce que c'est notre option. C'est ainsi que le concept d'un ministère organisé par le Centre d'évangélisation pour la jeunesse de la Conférence générale est apparu et reçu ce même nom, Église Refuge. Sa mission est d'aider les congrégations adventistes à se transformer intentionnellement, de façon stratégique, pour fonctionner et vivre dans l'accueil de l'autre et en particulier des plus jeunes. Les congrégations, avec plus d'engagement envers la jeunesse et aussi qui ont le plus d'engagement de la part de ces jeunes, sont celles qui ont le plus de croissance aujourd'hui. Une approche holistique, complète de la mission de l'Église traite les jeunes comme des personnes à part entière, s'intéressant à tous leurs aspects, à tous les aspects de leur vie. C'est vrai, cela place la barre assez haute dans les attentes pour les jeunes qui sont des disciples du Christ, qui sont des membres du corps du Christ. Promeut des relations significatives entre adultes et jeunes comme le fondement de la formation des disciples. Invite la jeunesse à s'engager dans un service tourné vers l'autre et non à être simple spectateur ou consommateur. Eh bien, cela permet aussi de s'éclater de joie tout le long du chemin vers le Christ. C'est dans cette tradition juive, inspirée par Dieu, Église, communauté de refuge, pour tous les pécheurs de toute génération, qu'elles deviennent à leur tour Église refuge, ouverte, capable d'accepter l'autre, certes, de créer des conditions pour qu'il puisse grandir et mûrir, qu'il puisse connaître le Christ. Que cette amitié qui a offerte ne se prête pas à l'histoire personnelle ou à la façon dont il se présente, à l'apparence ou à d'autres facteurs extérieurs. Des communautés qui pensent stratégiquement, qui s'engagent et qui sont orientées à pourvoir aux besoins de tous. Des communautés qui sont capables de suivre l'exemple du Christ en donnant la nourriture temporelle pour les amener à la nourriture spirituelle et éternelle. Les communautés réfléchies, pleines d'intentionnalité pour que l'individu rencontre à tout âge son chemin vers Dieu. Je veux conclure avec une citation d'Ellen White, une citation très à propos où elle dit « Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière spéciale un suprême regard. » Elle parle de l'Église. Elle est le théâtre de sa grâce. L'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Le Saint-Esprit est son représentant et il produit des changements si merveilleux que les anges en sont ravis et heureux. Le ciel se réjouit de ce que les membres de la famille humaine montrent de l'attention et s'aiment les uns les autres comme le Christ les a aimés. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il a placée dans un monde révolté. Soyons Église de Dieu. Soyons le refuge où aujourd'hui Dieu ramène les cœurs des pères, des adultes, vers les fils les plus jeunes et le cœur des fils